Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs, édition 29 octobre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc Martin, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
En fait, les marchés boursiers aux États-Unis font des nouveaux sommets encore. Pourquoi? Ben parce que la majorité des entreprises qui rapportent les résultats financiers ces temps-ci rapportent des résultats supérieurs aux attentes. C'était le cas, par exemple, de United Health. C'était le cas les banques américaines de l'autre côté. Là, cette semaine, donc aujourd'hui, on a Google, Meta et Microsoft. On a demain Amazon et Apple. Donc là, tu sais, les ténors, là, les grandes entreprises là, qui vont rapporter. Donc, ça pourrait avoir un impact sur les marchés. Hier, plusieurs des titres beaucoup de nos clients détiennent ont fait des nouveaux sommets historiques. Banque Royale, Banque TD, Power Corp, Northland Power, le FNB basé sur le MSCI, Europe-Australie, Google, Aecon Group aussi, nouveau sommet historique. Aecon également va annoncer ses résultats après la fermeture ce soir. On a les deux banques centrales qui annoncent la politique monétaire aujourd'hui. On s'attend des deux côtés à une baisse de taux d'un quart de pourcent. Ouf, je t'ai soufflé. Il y a beaucoup de choses là, qui se passent en fin de temps. Semaine très occupée. Et puis l'autre, là, dernièrement aussi, on a commencé à avoir quelques appels là, dans les dernières semaines. Ah, l'or, c'est le temps de l'or. Bon, l'or a perdu 400 $ l'once dans la semaine. Donc, si on était à 4 400, c'est retombé à 4 000. Donc, c'est quand même, tu sais, la chaîne a débarqué, puis un retour à la réalité, là, c'est un secteur qui est quand même très volatile à détenir en portefeuille. Donc, cette semaine, les marchés ont bien fait 1,8 sur le TSX, 2,3 sur le S&P 500, 3,8 sur le Nasdaq. Ce matin, dans les contrats à terme, là, Nvidia franchit la barre du 5 billions, $5 trillion, là, $5 billion, donc la première compagnie à le faire. On a assisté hier à une conférence d'un des gestionnaires des fonds que beaucoup de nos clients détient. On regarde un petit peu la performance, puis le gestionnaire, c'est un gestionnaire qui est toujours très axé sur la rentabilité des entreprises. Donc, la planche qui a retenu mon attention, il montrait comment, donc dans l'indice MSCI World, donc l'ensemble des entreprises au monde, ils ont fractionné l'indice en 5 tranches des entreprises les plus rentables aux moins rentables. Donc, des entreprises basées sur la rentabilité sur les actifs, là, qui est une métrique là, facilement accessible. Donc, les entreprises les moins rentables ont un rendement moyen de 37% cette année. La deuxième tranche d'entreprises les moins rentables, 34%. Inversement, les entreprises les plus rentables ont les 20% des meilleures entreprises en termes de profitabilité, seulement 9%. Donc, beaucoup de gens ont peur, OK, la bourse fait des sommets, ça va-tu corriger? Peut-être ça va corriger. Puis quand on voit des données comme celle-là, ça m'indique que si on détient des entreprises de qualité, ces entreprises-là sont probablement pas surévaluées. Elles n'ont pas participé autant à la forte croissance des marchés. Puis ça, c'est assez rassurant. En tout cas, moi, ça me rassure parce qu'on essaie évidemment d'être résilient dans le temps, donc d'avoir les meilleures entreprises possibles.
Bien, puis il faut vraiment regarder parce que qu'est-ce qu'il disait aussi, moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est que ces compagnies-là qui sont des bonnes entreprises, ils ont des vrais business, ces business-là continuent à rouler.
Générer des profits.
Oui, exactement. Et ils pointaient notamment en Europe que les banques qui étaient moins profitables et tout ce qui était la défense aussi performait beaucoup et avait beaucoup de vent dans les voiles. Donc, moi, j'ai trouvé ça super révélateur et ça nous explique tout le temps pourquoi on a besoin d'avoir un petit peu de tout dans notre portefeuille, d'être bien diversifié à chaque fois. Et c'est pour ça que des fois, on peut voir qu'il y a certaines choses qui performent hyper bien et il y a d'autres choses c'est un petit peu plus stable, puis c'est correct.
Exact.
Merci beaucoup, Martin. En parlant de cette période de l'année, on est le 29 octobre, on pense souvent à l'Halloween, aux costumes et aux bonbons. S'il y a de ceux de nos clients qui nous écoutent beaucoup, ils savent à chaque fois cette année, nous, on ne pense pas juste aux bonbons, on pense vraiment au fait que c'est le mois des morts. Donc, c'est un peu morbide et c'est vraiment le mois de novembre qui est le mois des morts. Le 2 novembre, c'est le jour des morts, une journée pour commémorer nos proches disparus. Traditionnellement, on visite les cimetières pour fleurir les tombes. Mais pour nous, conseillers en placement ou gestionnaires de patrimoine, on pense surtout à la planification successorale. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on a déjà discuté. C'est toujours bon de faire un rappel. On a toujours des appels de clients par la suite qui nous disent « Ah, je serais intéressé de rencontrer vos notaires ». Donc on va parler des erreurs les plus fréquentes qu'on observe et surtout comment les éviter pour protéger votre patrimoine et vos proches. Première erreur, Martin, ne pas avoir de plan du tout. Beaucoup pensent que ça va se régler tout seul, je ne serai pas
Je
là.
serai pas là de toute
C'est
façon.
ça.
Donc, quand on n'a pas de testament, donc décédé sans testament, marié ou non, là, ça fait que la loi va décider pour vous. Puis la loi, ben oui, il y a des mesures déjà prises dans le code civil. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un testament ou un mandat qui est bien clair, particulièrement le mandat, parce que on veut pas nécessairement que la curatelle publique s'implique dans un dossier inutilement. On n'aime pas la bureaucratie. Ben, peut-être c'est pas l'idéal d'avoir la curatelle pour gérer un mandat d'inaptitude. Rédiger un testament, puis aussi ben, le réviser régulièrement. T'sais. J'ai fait un testament il y a trop longtemps. C'est peut-être pas la meilleure idée.
Donc, tu as volé mon deuxième erreur, Martin. Avoir un testament, c'est bon. Avoir un mandat aussi, c'est bon. Mais si on le met dans le tiroir puis on le relit jamais.
Ben non, c'est correct qu'on a un testament, Sarah. C'est correct. J'en ai un. Ouais, j'en ai fait un il y a 25 ans.
C'est ça.
OK, ça, c'était avant que tu te maries avec ta première épouse, puis là, maintenant, tu es avec ta deuxième épouse. Donc, il y a des événements importants dans une vie, le mariage, le divorce, des naissances, des petits-enfants, des fois. Ne serait-ce même des changements légaux, hein. Il y a des clients qui ont des testaments qui prédatent 2009, l'année où le CELI a été inventé. Donc, des fois, c'est pas même votre vie qui a changé, c'est les lois fiscales qui ont changé, qu'il faut donc peut-être rajouter une clause au testament pour traiter, par exemple, le CELI, peut-être traiter le REE qui n'est pas mentionné si vous n'en aviez pas quand vous l'avez
Puis,
fait.
je peux compter sur 14 mains le nombre de clients qu'on leur dit, avez-vous un testament? Oui.
Oui.
Puis là, on réfléchit, ça fait longtemps, je ne l'ai pas relu, par
Ouais,
contre.
c'est.
Donc, nous, on suggère vraiment aux 4-5 ans, juste de le relire. On l'a déjà dit sur le balado, ça fait un bon bout de chemin pour vous rassurer. Et si vous voulez, on a des notaires chez nous. Ils ne sont pas là pour écrire les documents légaux, mais ils sont là comme consultants et puis on peut vous arranger un rendez-vous avec eux.
Ouais, puis tu sais, le diable est dans les détails, hein, qu'on dit de relire le testament, c'est ouais, mais moi je lègue tout à Sarah de toute façon. C'est qui ton liquidateur? C'est qui ton liquidateur de remplaçant? Si Sarah ne me précède, c'est qui les héritiers remplaçants? Donc, c'est tout dans ces détails-là qu'il faut aller relire. Donc, faut pas juste assumer parce qu'on se souvient de la grande ligne, à qui je lègue le principal, mais vraiment aller vérifier dans les détails
Puis,
pour
un
être
des
sûr.
plus gros défis pour les gens, c'est qu'ils ont nommé un liquidateur quand il avait 60 ans. Et là, maintenant, ils ont 80 et le liquidateur a aussi 80, 85. C'est notre frère, notre sœur. Finalement, c'est peut-être plus la bonne personne aujourd'hui parce qu'ils sont rendus au même moment de notre vie et ils ont les mêmes défis que nous. Troisième erreur, oublier l'impact fiscal.
Mais on le sait que les impôts au décès peuvent être très élevés. Donc, quand on décède, on est présumé avoir liquidé tous nos biens. Si on décède avec un ou une conjointe, bon, il y a souvent roulement fiscal si c'est au conjoint qu'on lègue tout. Mais présumons là, le deuxième décès. J'ai des REER, j'ai des CELI, j'ai une maison, j'ai un chalet, j'ai une compagnie de gestion. Je peux avoir toutes sortes de. J'ai un terrain que j'ai acheté il y a 40 ans. T'sais. Tout ça est réputé avoir été vendu et l'impact fiscal s'applique. Donc, c'est bon. T'sais, calculez-le, on est là pour ça. Un bilan successoral, ça vous aide à mesurer quelle est la facture fiscale prévue au décès.
Et le bilan successoral, c'est vraiment, on l'a déjà dit aussi, mais je vais le répéter pour ceux, c'est vraiment un exercice théorique où on vous fait mourir périodiquement, vous et votre conjointe, ça peut, c'est généralement fait à deux, et on regarde l'impôt au décès, et puis on est capable de vous donner une bonne idée du portrait que
Et
vous avez.
voir si est-ce qu'on peut fractionner l'impôt, étaler l'impôt. Donc, des fois, on est peut-être mieux de payer un petit peu plus d'impôts à chaque année maintenant pour en payer beaucoup moins l'année du décès. Ça peut être une stratégie à regarder.
Et ça nous amène aussi ce bilan successoral à notre quatrième erreur qui vraiment peut être évitée en faisant un bilan successoral, c'est d'avoir une succession sans liquidité.
Donc, on a de l'argent aujourd'hui, on a un petit peu de REER, un petit peu de CELI, mais on va vivre aussi durant cette période-là, puis on va utiliser peut-être cet argent-là. Donc, on a des clients qui ont un parc immobilier, tu sais, plusieurs locatifs qui ont acheté il y a longtemps, il y a une facture fiscale qui va s'attacher à ça, un chalet, ça peut être une entreprise ou une compagnie de gestion. Donc, c'est important de mesurer parce que, tu sais, si j'ai une compagnie de gestion, la compagnie, elle ne meurt pas avec moi. Par contre, je suis réputé avoir vendu mes actions de cette compagnie-là et ça va déclencher l'impôt sur le gain en capital personnellement. Est-ce que j'ai de l'argent à l'extérieur de la compagnie pour payer ces impôts-là? Si j'en ai pas, ça veut dire que le liquidateur devra rapidement liquider des actifs. Quand on fait des ventes de liquidation, généralement, on n'a pas la meilleure valeur pour notre actif. On peut à ce moment-là explorer des stratégies avec, par exemple, l'assurance vie pour essayer de combler ce manque de liquidité-là. Donc, on veut vraiment éviter de forcer les héritiers ou le liquidateur à vendre des actifs, peut-être dans une mauvaise période de marché ou simplement là, une vente de feu pour payer rapidement l'impôt.
C'est ça. Et le prochain, et ça nous arrive souvent d'avoir des conversations, c'est la cinquième erreur, où on présente à des nouveaux clients, des fois ils sont plus jeunes, et on discute, on parle de nos services, on parle des services avec le notaire, du testament, du mandat de protection, et souvent on nous dit, j'ai pas de mandat. Et on
C'est
dit,
quoi un mandat maintenant?
c'est
Tu passes du temps.
ça. Et on dit, puis ça s'appelle un
Un mandat
mandat
de protection.
de protection. Et on leur dit, même si vous décidez de ne pas faire affaire avec nous, la seule chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est d'aller voir un notaire et de faire faire un mandat. Est-ce que tu peux nous en parler, des conséquences de ne pas avoir de mandat?
En fait, c'est tout est bloqué si je n'ai pas de mandat. Donc, prenons le scénario, là, j'ai un accident d'auto, je suis dans le coma. Je suis pas mort, je vais peut-être m'en tirer, mais mettons que je suis vraiment là, inapte pour m'occuper de moi-même pendant 6 mois. Et là, mettons, Sarah, il faut qu'elle vende la maison. Elle ne peut pas vendre la maison, je ne peux pas signer. Donc, qui va gérer mon compte de placement? Le marché bouge, qui va prendre les décisions? Faut que je paye les études des enfants. Ben, tu peux pas utiliser mon argent et bloquer mon argent. Donc, ça crée toutes sortes de problèmes et le mandat va venir encadrer ça. Donc, va permettre de déterminer, bon, d'abord, qui prend soin de moi, ma personne, mes soins, c'est est-ce que j'accepte ou non un traitement ou je vais, bon, mais aussi mes biens, qui gère mon argent. C'est pas obligé d'être la même personne. Ça peut très bien être deux personnes différentes, un ou une qui est super bon pour la personne qui a des mêmes valeurs que moi, puis l'autre personne qui est un petit peu mieux avec la finance, mettons. Ça peut très bien se faire. Donc, le mandat de protection, faut aussi savoir que quand on en a un, on n'arrive pas à la banque avec le mandat dans les mains, puis oui, j'ai un mandat, il faut le faire homologuer. C'est quoi ça? Ben, c'est le processus qui va faire en sorte qu'un juge va vous déclarer inapte. C'est pas votre conjoint, votre proche ou le caissier à la banque là, qui va déterminer si vous êtes apte ou non. C'est le travailleur social, le médecin traitant, puis ultimement, sur le rapport de ces deux professionnels-là, le juge va vous déclarer inapte. C'est un processus, il y a des frais reliés à ça parce que tout ce beau monde-là doit être payé. Ça peut prendre 2, 3 mois si on paye au privé, 6, 8, 9 mois si on va au public. Donc, on pense à des personnes en fin de vie, Alzheimer. Donc, ça peut durer des années, l'inaptitude. Donc, c'est important là, d'activer le mandat de protection. et de permettre là, de gérer. Si on attend d'avoir la décision à prendre, tu sais, OK, ben là, tu sais, papa, il est plus là, faut vendre la maison. Mais là, si le mandat n'est pas commencé de désactiver, là, on est 6-8 mois à attendre avant de vendre la maison, là, parce que papa ne peut pas signer, là.
Et puis, ben, peut-être parler un peu de la procuration bancaire, qui est aussi important. C'est pas dans le cas d'une inaptitude complète, mais c'est vraiment dans le cas où nous, on peut pas, on n'a pas l'opportunité d'aller à la banque, on peut pas aller à la banque, et puis on mandate quelqu'un pour prendre notre place. Et c'est vraiment, les procurations peuvent être quelque chose de très large, donc signé chez le notaire qui donne le plein pouvoir à quelqu'un qu'on a désigné, ou ça peut être vraiment une procuration bancaire qui est pour un compte spécifique. Exemple, chez nous, quelqu'un peut avoir une procuration. Ouais. C'est une bonne idée d'avoir ces choses-là en place. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve et ça nous protège et ça protège notre famille aussi. Dernière erreur, garder le silence. Ne pas communiquer avec la famille. Et ça, je sais que les clients, souvent, c'est très, très touché. On l'a déjà dit, toi puis moi, il y a un tabou dans la vie et c'est parler d'argent.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Bien, je peux difficilement penser à un sujet qui est moins intéressant d'aborder durant le souper de famille du samedi soir, là, mais c'est quand même important de le faire. Donc, les gens ne veulent pas parler de leur décès, mais ça va arriver. T'sais. On ne vous promet pas grand-chose dans la vie, là, mais malheureusement, on vous promet que ça va vous arriver un jour ou l'autre. Le plus loin possible, c'est le mieux. Mais si on a pris des décisions au testament avec toutes les bonnes intentions du monde, mais qu'on ne l'a pas dit à personne, les gens ont des attentes. Si personne ne dit rien, on se fait chacun notre propre histoire dans notre tête. Puis après ça, ben après votre décès, on lit le testament, puis là, ben, y a plein de questions qui restent pas répondu, d'incompréhension. Puis ça peut créer un petit peu de bisbille des fois dans la famille. Hein. Puis c'est ce qu'on veut éviter.
Dans les meilleures familles, hein, où les gens s'entendent super bien, souvent la question qui revient beaucoup avec les clients, c'est qu'ils ont le goût d'en donner à leurs petits-enfants. Des fois, il y a un enfant qui n'a pas d'enfant et l'autre enfant qui a des enfants. Alors là, leur enfant hérite. Et comment expliquer cette situation-là? C'est vraiment quelque chose qu'on peut vous assister. On a nos notaires, on a l'analyse testamentaire et ça aide à avoir les discussions, mais on évite des conflits plus tard. Oui, on ne sera pas là, mais on veut bien que nos enfants s'accordent.
Et tu sais, on vise toujours, les gens visent l'équité entre les enfants. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est égal non plus. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent justifier qu'on lègue un bien plus à un qu'à l'autre ou plus d'argent à un qu'à l'autre. Est-ce qu'on tient compte de l'aide qu'on a donnée de notre vivant à un enfant plus qu'à l'autre? Puis là, rendu au testament, ben là, c'est pas 50-50. Ah, tu sais, pourquoi? Donc, c'est tout ça. Quand on veut surtout atteindre l'équité, c'est toujours une bonne idée d'expliquer son point de vue. Puis après ça, de corriger le tir au besoin.
Puis je l'ai déjà mentionné, mais je vais le répéter, celle-là. Il y a un client qui nous a parlé de comment il s'est préparé pour la succession de sa mère avec sa mère. Et j'ai adoré sa méthodologie. Il a dit à sa mère, parce que c'était lui le liquidateur, il a dit, OK, maman, tu meurs demain. Qu'est-ce que je fais? Comment qu'on organise ça? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que ton testament dit ça, mais comment je le fais? Et ils ont passé à travers à plusieurs reprises durant sa vie. Et puis, arrivé au jour de son décès, au moment de son décès, elle avait aussi laissé une note. Et elle avait dit simplement de sa main, signée par elle, « S'il vous plaît, ne vous chicanez pas. » Et j'ai adoré ce truc. Donc, je vous le donne et je vais le répéter sur le balado à travers le temps. Merci beaucoup, Martin. La planification successorale n'est pas seulement une question de documents. C'est une démarche pour protéger vos proches et votre patrimoine. Si vous avez des questions ou souhaitez en discuter, contactez-nous. À nos clients et partenaires, si vous avez des questions sur vos objectifs financiers, contactez-nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.